essentiellement de la Fondation Kandinsky. Je ne sais pas pourquoi précisément cette
fondation. Il y a des archives, manuscrites, il y a des magazines, des revues, des photos, des films, des disques également. Voilà. C'est assez... j'allais dire c'est assez complet, non. C'est pas le terme exact. C'est intéressant. Mmh. C'est intéressant. Vous êtes un peu habitué d'autres expositions, vous avez eu d'autres expositions, vous êtes un peu habitué du monde homo, il y a plein de choses qu'on connaissait un peu, puisque reviennent beaucoup de gens qu'on connaît, Jean Genet, Jean Cocteau,
Jean Cocteau, vraiment ? Oh, n'allons pas salir sa relation avec Jean Marais. Bon, je plaisante.
Si, il y a Jean Cocteau.
Oui, bien sûr, il y a Jean Cocteau.
Andy Warhol, celui qui a fait... Kenneth Anger, qui d'autres encore, un certain nombre qu'on retrouve souvent, en fait, dans ce qu'on appelle la culture gay. Voilà. La culture homosexuelle.
Et d'ailleurs... À l'origine, la culture homosexuelle, enfin, en tout cas, les marches des fiertés, en tout cas les gay pride, viennent. Marque déposée, d'accord, ok, mais en fait, à l'étranger, c'est gay pride, viennent justement de l'intervention de la police, justement, de la police contre effectivement les personnes homosexuelles. Et on en vient justement. La police, justement, Yves.
La police ne nous harcèle plus, mais elle ne nous écoute pas. Quand tu vas déposer... Non, si, quand même. Il y a des dossiers qui prennent au sérieux. Ça dépend des flics. Parce que je pense que il y a des good cops et des bad cops.
Oui, tout à fait. Oui, oui,
là,
tout à
fait. Je suis content de ma trouvaille.
Ah oui, non, c'est... Donc,
alors, surtout sur Libertaire, si tu dis qu'il y a des bons cops, je suppose que ça doit exister. Mais bon...
C'est un peu long. Enfin, le journal Le Monde a publié sur une page entière,
ah oui,
daté du 4 août, un article où il raconte le tabassage de M. Eddy R. à Marseille, reconstitué. Et donc, la justice, dit-il, devait se prononcer jeudi sur la demande de levée de la détention provisoire du policier mis en cause. En fait, elle a gardé la détention provisoire. Il raconte dans le détail...
Non,
je suis pas sûr de me lancer là-dedans.
Non.
Si c'est un peu long.
Si c'est surtout un double page, machin.
C'est pas un double page. Non, je pensais reparler un petit peu de l'impasse culture, parce que là encore, la Cour des comptes est du 18 juillet, et en plus, la Commission des finances du Sénat, du 11 juillet, a encore râlé un peu plus sur le pass culture. Qui coûte actuellement 273 millions d'euros en allée pleine, soit le deuxième budget du ministère de la Culture derrière celui de la Bibliothèque nationale de France.
Parce que les gamins ont tout été dépensés en manga écrit par des Japonais.
Ça s'est passé au court-circuit, mais oui, c'est un peu ça. Ils disent qu'en mai 2021, ils ont généralisé le pass culture à partir de aux résidents âgés de 18 ans, à tous les résidents âgés jusqu'à 18 ans, donc en mai 2021. Au bout d'un mois, il était constaté que ce pécule permettant d'acquérir billets de cinéma ou de concert, CD, DVD ou des livres, servait à 84% à acheter des mangas. Puis il a été étendu aux 15-17 ans à partir de février 2022 sous la forme d'une part collective dévolue aux établissements scolaires qui s'en servent surtout pour des sorties...
Pour aller voir des expositions de manga.
Et à des spectacles, avant une future extension aux 12-15 ans. Et pendant cette longue période de gestation, le pilotage a été emblématique des dérives du recours extensif à des consultants extérieurs pour des missions de nature administrative et politique, accuse la Cour, qui tire un bilan sévère de cette phase de préfiguration. L'ex-conseiller de Sarko, Éric Garandeau, dont on a déjà parlé la semaine dernière, chargé de mettre en œuvre ce chantier culturel prioritaire du président, a ainsi touché plus d'1 million d'euros en 1 an et demi à travers sa société Garandeau Consulting, alors que cet inspecteur de finances en disponibilité aurait pu accomplir les mêmes missions en détachement pour un salaire bien moindre, souligne la Cour. Mais c'est à ce prix que le Pass Culture a été lancé comme une start-up d'État. Bonjour à l'ingénierie culturelle, s'exclame le canard. Et la Cour s'étonne au passage de la disparition de la liste des consultants, ainsi que des factures et des mails pendant la période 2018-2019. Ah ben ça, c'est bizarre. Et le canard avait raconté en son temps que Macron souhaitait au départ octroyer 500 euros à chaque jeune, puis qu'il avait discrètement ratiboisé à 300 en 2021 le pécule culturel. Ce prétexte qu'il était alors peu utilisé au sortir du confinement, mais aussi aux raisons de son coût, car le modèle de fourniture gratuite des services que Garandeau entendait obtenir des partenaires en ligne, c'est-à-dire fournisseurs de jeux vidéo, éditeurs de journaux, sites de VOD, a échoué. Et voilà qui valait bien 1 million sans doute.
Alors,
dit JC, l'auteur de cet article, qui est dans le Canard enchaîné de cette semaine, donc du 26 juillet, je crois.
Alors, pour moduler un peu le truc, quand j'étais au boulot, il y avait aussi quand même pas mal de... Enfin, beaucoup d'ados payaient leur place avec le Pass Culture. Alors, évidemment, je vous rassure tout de suite, c'était pour aller voir des blockbusters. Spider-Man et compagnie, voilà. Donc là, évidemment, je sais pas si ça a loupé son coup. Je laisse à l'appréciation de la Cour des comptes, après tout, hein. Mais bon, principalement, les films qui étaient vus avec l'entremise du pass, ben, c'était ces films-là, quoi. C'était les gros films généralement américains pour adolescents.
Est-ce que ce Pass Culture n'était pas une mesure un peu démagogique ?
C'est une mesure, bien sûr.
C'est pour attirer les voix, disons.
Bien sûr, c'est moi, je trouve que c'est de la démago totale. Hein.
Ah oui, oui.
Bah, c'est-à-dire que...
C'est de la grosse démago.
À la même période...
Mais enfin, c'est un peu le...
À la même période, il était question de faire un revenu universel. Aux élections, à la première élection de
Macron. C'était une très bonne idée, ça.
Ça, c'est une très bonne idée. Et cette idée, je n'ai pas les références sur place ici, mais j'ai pu passer des articles. C'est un truc qui revient actuellement en Allemagne, d'une part, qu'on ne peut pas soupçonner de laxisme, et également, je crois que c'est en Espagne, où ils essaient de mettre ça en place.
Et en Italie, c'était mis en place. Il y avait aussi un revenu minimum en Italie, mais qu'a supprimé Giorgia Meloni.
Bien sûr. Voilà, oui. Ah, c'est con, hein. Oui, oui.
Oui. Et elle met vraiment dans la merde quasiment 1 million d'Italiens. En échange, il y a de l'emploi, mais peut-être de l'emploi précaire,
des choses comme ça. Ouais, on imagine.
Voilà.
Bon, on parlait de manga, bah, je suis sûr que vous allez vous dire, mais est-ce qu'il y a du japonais en stock sur cette compilation ? Eh bien, oui.
Ah.
Il y en a.
Eh ben, on écoute.
We'll be right back.
Radio Libertaire, le club, oui, le club vieillesse. Le club vieillesse de Postnum Radio Show.
Et ah, c'était excellent. Hein. C'est mélange de jeux vidéo et mélange de chanteuses coréennes ou japonaises.
Japonaises,
oui, c'est
je
ça.
Je crois, c'est Tiriki Latops.
Mais c'est fou,
Tiriki
quoi.
Tiriki Latops. Et le titre, si j'ai mes... lunettes, non, je les ai pas. Météorite.
Oui, en tout cas, c'est tonifiant.
Alors, tiens, en passant, je suis passé justement à la FNAC cette semaine et j'étais étonné alors au rayon. Alors, je sais pas si c'est un rayon entier. En tout cas, il y a un bout de rayon qui est consacré à la K-pop, à la pop coréenne. Et en fait, ils vendent la musique sous forme de cartes.
Oui.
C'est, j'étais halluciné, quoi. J'avais jamais vu ça, en fait.
Ah, c'était une carte, des petits trucs carrés,
c'était
là.
C'était des petites cartes, en fait.
De 2 cm sur 2 cm.
Oui, c'est ça. Ils vendent donc de la musique, des disques, quoi. Enfin, c'est pas des disques. Sous format carte. Mmh. Voilà. Alors, c'était le groupe BTS, justement.
BTS,
oui. J'ai entendu parler de BTS. C'est le groupe BTS. Et donc, en plus des vinyles, des coffrets 45, des CD, et je crois qu'il y avait de la cassette, il y avait aussi des cartes SD.
Ah, d'accord, c'est des cartes SD, d'accord.
Oui, enfin, c'est comme si c'est des cartes SD, quoi. Mmh. C'est des cartes, voilà, que... Et ça,
on peut mettre éventuellement dans un ordinateur.
Ouais, on met dans un ordi ou dans un lecteur. Là par exemple, à côté de moi, j'ai des bécanes,
Oui, où tu peux mettre des cartes SD, par exemple.
Pour enregistrer. Voilà. Et là, c'est des cartes SD que tu peux lire.
Oui.
Ouais, j'étais un peu... voilà. C'est déjà le futur chez eux. Enfin, ils mettent à profit tous les formats, etc. Alors, c'est la dernière ligne droite, il nous reste quoi, moins d'une heure.
Oui, je voulais faire juste une petite remarque sur...
Ah, il se réveille, tiens.
Bah, non, je me réveille, mais puisque là, sur l'information que tu viens de donner, ça en rajoute un peu une couche sur les lycéens, en fait, qui sont un peu plus âgés, je sais pas, mais tu parles de BTS, là, de...
BTS, le fameux groupe coréen.
Donc, oui, mais Et en plus, ça doit correspondre sans doute aussi aux lycéens de dernière classe, quoi. Et donc,
le BTS, tu veux dire.
Oui, voilà, oui. Alors, ce qui a été fait, eh bien, par Macron, je revois toujours à la télévision Choron, dans l'émission avec Pollack, ses droits de réponse.
Ah, le professeur. Ouais. Le professeur Choron, qui était un sacré cochon, d'ailleurs.
Oui, c'était un bonhomme.
Ouais, il était,
et qu'il avait lancé à Pollack, les lycéens, c'est des petits cons. Ouais.
Pourquoi tu penses ça là subitement?
Parce que les lycéens ils sont tous précipités vers des conneries japonaises, tout ça, et donc
il n'y a pas que des conneries, il y a des super trucs.
Non, il y a des superbes histoires.
Il y a des super trucs.
Dans l'animation japonaise.
C'est vrai qu'ils auraient pu, ils pourraient se jeter sur la bande dessinée française, européenne.
Sur le lys de la vallée.
Américaine. Ils pourraient se jeter sur la bonne littérature française. Ils pourraient se jeter sur le cinéma d'art et essai.
Arendt.
Ici, ils se jettent sur les mangas. Bon, voilà. Voilà. Moi, j'ai des neveux, j'ai une nièce. Tu lui dis manga, t'es sûr que t'es en terrain connu, quoi. Mmh. En terre connue.
En terrain connu.
T'es en terre connue. Ouais. Tu lui dis manga, c'est cool. Là, c'est bon, tu sais. Ben justement, on va parler culture, on va finir l'émission. Bon, là, encore 45 minutes.
Culture, c'est-à-dire maïs, etc.
Maintenant, on va parler cinéma. Ah, et donc, à 23h28... on laissera la place à DJs. Alors DJs au pluriel, pareja, c'est-à-dire le DJs couple. Pareja, c'est couple en espagnol. Ce sont deux Argentins ou Mexicains, je sais plus. Je crois que c'est des Mexicains. Fait vraiment chaud ce soir ici en studio. Qui ont fait la musique dans un film dont on a parlé récemment qui s'appelle Porno Melancolia. Et là, en fait, c'est pas vraiment la musique, enfin, une partie de la musique du film. Là, c'est pas vraiment la musique du film qui va être diffusée, mais un de leurs tout premiers mix, une sorte de création sonore mix, où il y a un mélange de boucles et d'extraits, de choses. En fait, ça s'appelle Mix 2000, puisque ça a été fait dans les années 2000. Ils ont mélangé du Alvanotto, les Bee Gees, Gaz, Culture Club, Fairground Attraction, Oval, Frankie Goes to Hollywood, Harmonia 76, Stockhausen, Madonna, Porter Ricks, Shirley Bassey et SND. Et c'est ça qui nous permettra de faire le lien avec Sure Shot. On va parler un peu de cinéma. On est allé voir donc plusieurs films cette semaine. J'ai eu un accès de boulimie. D'envie d'aller au Cinoche, ça faisait un moment, quoique non, puisque j'avais été voir Porno Melancolia. On est allé voir deux films de William Klein qui sont ressortis. Alors William Klein, j'ai là mon petit Wikipédia, William Klein, merde, j'ai fait la page là, je l'ai reperdu. Alors William Klein, c'était j'arrive.
Quelqu'un qui travaillait dans la mode.
Est un photographe, peintre, plasticien, graphiste, réalisateur américano-français.
C'est EIN.
C'est EIN quoi.
Ça s'écrit EIN, Klein.
Oui.
Ah, d'accord. Klein.
Américano-français de films docu, publicitaires et de fiction. Il travaillait dans la mode et il était aussi photographe de rue. Et on a vu donc Qui êtes-vous, Polly Magou, un film de 67, et aussi Mr. Freedom de 1969. Alors, c'est un peu le postmodernisme, la modernité de cette époque. Il faut se resituer, on est en 67-69. Donc, Polly Magou, c'est en noir et blanc. Alors, on y retrouve un tas de gens jeunes.
D'acteurs,
je veux dire. Jean Rochefort, on retrouve Delphine Seyri, Philippe Noiret, il y a Rufus. Alors, je vous parle sur les deux films. Hein. Mm-hmm. Il y a Rufus, alors moins jeune, il y a Lisa Pritch. Alors, il y en a plein d'autres encore. Justement, Polly Magou, c'est autour de la mode. Ça prend comme vedette principale, comme figure auquel auquel le film va tourner autour. Une mannequin qui s'appelle américaine, qui s'appelle Polly Magou, et qui est mannequin là à Paris, et qui est suivie par une équipe de télé française qui fait une émission sur elle. Et donc, on a là une satire, on va dire, du monde de la mode. C'est très marrant, c'est très inventif, c'est très foisonnant, c'est sur un mode de collage, donc on a... alors, il y a plusieurs choses imbriquées, il y a cette mannequin, l'émission de télé qui la suit, la famille du réalisateur de l'émission qui est Jean Rochefort, qui est un peu amoureux, qui est amoureux de Polly. Il y a aussi le fantasme collé sur ses poupées de chair et de sang, de utiliser comme vêtements, comme porte-manteau, le fantasme de la petite princesse, Cendrillon en l'occurrence, qui attend son prince. Donc il y a plusieurs choses imbriquées, c'est assez, il y a un côté un peu comme ça, bordélique, foisonnant, limite un peu hystérique de temps en temps. C'est très pop. Pop culture des années, de la fin des années 70, à vrai dire.
Il y a aussi Sami Frey que je joue dedans.
Il y a Sami Frey qui est.
Il y a Violette Leduc.
Hein. Violette. Alors oui, parce que il y a la famille du réalisateur Jean Rochefort.
Il y a Raval
qui est le côté franchouillard. Il se moque quand même assez gentiment, mais il se moque de la famille bien franchouillarde. De Jean Rochefort qui mange de la tête de veau.
Ah,
et oui, ça te fait penser à quelqu'un.
Référence au film où on mange abondamment et on se tue à manger. Je ne sais plus comment elle s'appelle.
La grande bouffe.
La grande bouffe, voilà.
Et ça viendra beaucoup plus tard. Ah oui. Là, ils mangent de la tête de veau, puis ils font des jeux de mots bidons sur le prénom de la mannequin. Polly, êtes-vous polyglotte? Êtes-vous. Bon, c'est quoi? Il y a un côté drôle, c'est fin et intelligent de temps en temps, c'est absurde et idiot à d'autres. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Il y a aussi Topor qui fait le générique, on le voit à un moment donné.
Il y a la musique de Michel Legrand, pris Jarrigo à l'époque.
Voilà. Alors, on retrouve certains de ces acteurs dans le film suivant, Mr. Freedom, pardon, qui lui est en couleur. Alors, dans celui-ci, on a Jean-Claude Drouot.
Thierry Lafronde.
Qui était aussi un bel homme. Hein. On retrouve plein d'autres gens. Alors, je ne me souviens plus exactement.
Il y a Gainsbourg, Rufus.
Il y a Gainsbourg.
Il y a Daniel Cohn-Bendit, paraît-il. J'ai pas remarqué.
Ah, il y a Cohn-Bendit.
Je ne l'ai pas vu.
Ah, parce que. Alors.
Mais il y est.
Quand ils disent ça dans le Wikipédia, là. Que,
il y a Simone Signoret.
Que Klein fait de la photo de rue. Il l'a tourné aussi dans les deux. Alors non, dans le premier, Polly Magou, il y a des images où c'est vraiment, on dirait que c'est pris sur le vif, quoi. Il lance des situations, des sujets dans la rue, avec des vrais gens qui sont là, qui n'ont pas l'air d'être vraiment des figurants, qui réagissent à chaud. Et dans le suivant, tu as des images de 1968, de manifestations. Mmh. Mr. Freedom est un peu différent, il perd de son innocence. C'est un peu du théâtre happening, filmé, très bariolé. Le code couleur du film, c'est le blanc, le rouge et le bleu.
Bah, c'est-à-dire c'est le symbole de l'Amérique qui apporte la paix dans le monde au prix d'un certain nombre de pertes collatérales, disons.
Disons que oui, c'est le discours ambivalent. Alors, c'est une satire.
Surtout que c'est à l'époque 69, donc il y a encore la guerre du Vietnam, il y a un fort sentiment anti-américain, d'une part les gaullistes qui sont très pour l'indépendance nationale, disons. De Gaulle a mis les Américains dehors. Des bases américaines. Il y a des communistes qui sont également relativement...
Alors, oui, C'est une satire, c'est une satire de la géopolitique de l'époque.
On parle à ce moment-là de l'impérialisme américain à cause de la guerre au Vietnam.
Voilà, donc alors, d'un côté, les Américains et leur ambivalence, c'est-à-dire d'un côté la Pax Americana, la liberté, la consommation, etc., freedom, et de l'autre l'impérialisme, la guerre, etc. T'as aussi les rouges. Les Russes d'un côté, les Chinois de l'autre.
Mais le gars qui est
et
en costume.
T'as les franchouillards, alors, et t'as les franchouillards au milieu, qui sont alors là, défoncés là. Ça commence déjà tout simplement avec un discours d'une sorte de docteur Maboul qui envoie donc le super-héros. Parce que c'est des super-héros, c'est un super-héros, Mr. Freedom, en disant tout simplement. Il faut aller aider la France. C'est des pauvres fouilles molles. Ça fait deux fois qu'ils nous appellent en 14-18, en 39-45.
Ben c'est Captain America avec 20 ans ou 30 ans d'avance.
C'est Captain America, mais version. Alors, c'est complètement satirique. C'est complètement hystérique. C'est vraiment du happening. C'est du on a l'impression vraiment de cette idée de théâtre à l'époque. C'est très. Hystérique, ça gueule, ça pétarate, c'est outrancier.
Ça explose.
Voilà, moi j'ai moins aimé que Polymagou.
Il y a Gainsbourg dans les deux films.
Et j'ai pas vu Gainsbourg dans le premier.
Il joue un petit rôle.
Il a dû passer en vitesse, c'est comme Cohn Bendit, quoi, j'ai même pas fait gaffe. Donc, mais en même temps, voilà, ça te donne une vision de cette fin des années 60. Qui est pas mal, qui est très moderne finalement. On dit ça, mais bon.
Est-ce que ces films sont toujours projetés ou pas?
Ils sont toujours projetés, je crois, au Reflet Médicis à Paris, entre autres.
D'accord. C'était bon à savoir.
Alors, sinon.
Tu vois, entre les deux films, il a fait un film qui s'appelle, d'après Wikipédia, Loin du Vietnam, en 67. Film collectif avec Godard, Chris Marker, Claude Lelouch, Jolie Evans. Donc, c'est le film intermédiaire. Parce que Mr. Freedom, c'est 67-68.
Non, c'est 69.
Et bien là, sur le site de Wikipédia, j'ai.
Moi, sur le programme du cinéma, c'est 69.
Ben, il dit 67-68.
Polymagou.
68, c'est sûr, puisqu'il y a des images et des manifestations.
Trompé. Polymagou, c'est pas 67, c'est 66.
Oui, 66.
Et Mr. Freedom, c'est 69.
Oui, parce que quand.
Et la musique est de Serge Gainsbourg pour Mr. Freedom. Ça, j'avais pas vu.
J'ai pas fait gaffe non plus.
Mais c'est en consultant le site de Wikipédia à l'instant.
J'ai pas fait gaffe.
Quand les bases américaines seront désertées. Parce que De Gaulle ne veut plus, donc sur place de l'OTAN, c'est 66. Été 66.
Ben, je pense que c'est ce qui a dû donner des idées à Klein et à pas mal de gens. Ok. Bon, allez, pause et on continue dans le cinéma.
Yeah. les bases aériennes.
Liberté à 89.4, je passe non radio show. Tant qu'on y est, on a encore le temps de parler de cinéma. On est aussi allé voir On dirait la planète Mars de Steve Laplante. Non, de Stéphane Lafleur, pardon. Avec Steve Laplante.
D'accord. Ah bah, oui, là, je comprends mieux, effectivement.
C'est un film canadien, québécois. Et l'histoire, c'est 5 astronautes sont envoyés sur Mars. Mais afin d'éviter et de régler d'éventuels problèmes interpersonnels entre l'équipage, une mission se déroule également sur Terre. Ils ont été choisis après des tests pour leur ressemblance de caractère avec les personnes qui sont envoyées sur Mars. Mais eux sont sur Terre. Alors, déjà, c'est pas du tout un film technologique. Ils se retrouvent dans une sorte de désert. Enfin, plutôt une sorte de coin montagneux, un peu aride, dans une sorte de mini-base qui fait plutôt déglinguer, plutôt années 70.
Et ils sont en maillot de bain ?
Presque. Et donc, on a les 5 personnages qui adoptent les prénoms, puisqu'ils ont les mêmes caractères que les 5 astronautes qui sont sur Mars. Ils adoptent les prénoms. Alors, au lieu de s'appeler Steve, il s'appelle par exemple John. Alors, ils ont tous le prénom de la personne avec qui ils sont reliés et ils suivent au mieux ce qui se passe là-haut et ils essayent de démêler et de devancer les éventuels problèmes.
Oui.
Et en fait, moi j'ai trouvé que c'était un film drôle. Décalé, il y avait une certaine poésie. Je vous dis, ça se passe. Alors, c'est un décor qui est déglingué, tout simple, tout bête, des années 70-80, absolument pas technologique, ou si tout du moins une vieille technologie. Et ils se prennent vraiment au jeu, parce que même pour sortir dehors, quand ceux de là-haut vont en mission à l'extérieur, oui, ils revêtent un scaphandrier. Alors c'est voilà, il y a des scènes drôles. C'est un humour un peu comme ça, très. Bon, c'est pas de l'humour à éclat de rire. C'est plutôt de l'humour à sourire, etc. Et il y a comme une. Alors c'est une histoire par rapport aux rêves qu'on souhaiterait vivre et qu'on vit pas. Et ça s'attarde surtout sur le personnage principal.
John,
mais qui n'est pas John, qui est... je ne sais plus comment il s'appelle.
C'est la doublure de John.
David. Et David, qui est prof de gym dans un lycée, en fait, il est à fond dans le truc, quoi. Il est à fond complètement. Et les autres aussi. Certains sont à fond dans le truc. Pas tous, hein.
Ça commence par le rationnement des sucres.
Parce que la mission est très longue, ça dure 2 ans et demi.
Oh yeah,
Donc pendant 2 ans et demi, ils sont enfermés dans cette base.
Ils ont l'ordre de ne communiquer en aucun cas avec l'extérieur, voilà, qui ne savent pas où sont partis leurs conjoints ou leurs amis pendant tout ce temps, parce qu'il y a une clause de confidentialité, comme dans les grandes entreprises, disons.
Voilà. Et
sur d'autres sujets.
On suit David, qui est le personnage principal, et qui, lui, se donne complètement à fond, et qui rêvait peut-être de cette destinée, qui est la destinée de quelqu'un, d'une destinée éclatante, pleine d'aventures, de vraies aventures, de risques, etc. C'est ce que vivent les astronautes.
Ils sont très très contents jusqu'à la première réunion de groupe qui se passe de façon assez formelle.
Et là, on revient du prosaïque.
Et là, il y en a un qui fait remarquer que John a pris 2 sucres.
Et que le sucre est rationné.
Oh, ah, oui.
Et que si on continue comme ça va être la merde.
Ah oui.
Et donc, c'est du sérieux. Alors, John, évidemment, essaye de prendre ça à la rigolade, en disant, bon, écoutez, on est quand même dans une mission qui est d'un autre ordre. Mais en fait, non. C'est tout à fait sérieux. On est rationné, on a le droit qu'à un sucre.
Et en fait, c'est très prosaïque, quoi. Leur mission consiste à régler ce genre de problème en étant enfermés, E5, des problèmes du quotidien, en fait. Des problèmes de caractère, des problèmes d'ego.
Ouais,
Et la flamboyance de la mission, bah, en fait, c'est les autres qui la vivent. Mais ils vivent aussi ça, les autres, là-haut.
Ouais.
Parce qu'en fait, ils sont aussi enfermés et ils ont également les mêmes problèmes.
Ils ont des problèmes, oui. Ils ont des problèmes.
Mais
on ne sait pas lesquels, mais ils ont des problèmes.
Voilà, parce que ça reste un peu mystérieux, parce que, en fait, tous les matins, ils ont une petite boîte à côté sur leur table de nuit, ceux qui sont sur Terre, et tous les matins, ils reçoivent une espèce de petite carte où il y a marqué en résumé ce que pense l'autre. Je suis en colère, j'ai un problème relationnel avec un tel. Voilà. Ben, moi, j'ai bien aimé ce film.
Ah oui, c'est... Oui.
Yves Mon, hein, à un moment donné, il m'a dit, oh là là...
C'est-à-dire, c'est des dialogues très formels, même si, en racontant comme ça, c'est vrai que je me rends compte que ça m'a amusé. Mais il y a, par exemple, le personnage du chef du groupe de 5, qui est une femme qui est médecin
dans
le groupe.
Comment elle s'appelle dans le film?
Je ne sais plus.
Mais
elle se présente
Janet,
comme médecin dans le
groupe.
Et en fait, il y a des sortes de groupes de pression. Il y a eu un groupe de pression qui s'est créé, par exemple, pour le sucre, où ils ont voté. Et à 3-2, eh bien, les partisans de rationnement du sucre l'ont importé. Et ensuite, il y a un système d'équivalence qui se met en place, parce que le gars qui a soulevé le problème ne veut pas non plus être désespérant, quoi. Donc, il met en place un grand tableau avec un système d'équivalence. Tu veux un sucre, tu me donnes tel truc, etc. Et donc, tout est très, très bien organisé d'un point de vue administratif, disons. C'est assez drôle.
Oui, non, ce film, il est vraiment très sympa. Moi, j'ai bien aimé.
Mais ça ne conforte pas certaines personnes de croire qu'effectivement, ce qui a déjà eu lieu sur la Lune, je ne sais pas, une dizaine d'atterrissages, d'alunissages, était bidon ou bien...
Ah non, pas du tout.
Non,
ça,
pas du tout. Non,
ça
non,
touche
non.
Absolument pas ça. C'est plutôt, ça a fait penser.
Oui, ça tangente pas ça, quoi. Oui, oui.
Ça fait plutôt penser à l'expérience qu'il y a eu réellement aux États-Unis,
oui.
Où alors il reproduit. C'était pas l'équipe B qui devait aider à la compréhension d'une supposée équipe qui serait sur la Lune ou ailleurs, mais où ils avaient. Oui, je me souviens plus comment s'appelait cette mission, mais ils étaient sur Terre et ils avaient été enfermés pendant un certain temps, tu te rappelles?
Dans le désert.
Avec des serres, etc. Mais ça avait tourné à la catastrophe, en fait.
Oui.
Et en fait, là aussi, ça vire, ça se délite. Ça finit par se déliter. Mais il y a des moments drôles.
Mais l'idée de faire un truc un peu parallèle, comme ce film-là aussi, pour dire, s'il y a vraiment dans une vraie mission, par exemple, parce que ça va être quelque chose de costaud quand même de partir un an et demi, mettons presque deux ans, sur Mars, hein, poser le pied, puis revenir ensuite, puis faire quand même rester un peu là-haut pour faire du travail. C'est quand même, ça serait bien de faire une équipe aussi, comme tu les mettais là, de dire qui est elle qui vit les trucs comme eux dans les vaisseaux spatiaux.
Oui, et puis ils sont chargés.
Et s'il se produit un problème qui n'est pas technique du tout là, hein, qui est entre simplement personnes, qui puissent résoudre eux. En le vivant, résoudre le...
C'est vrai que là, il n'est pas énormément question de technique, il est plutôt question de rapport humain.
Oui, c'est bien.
Et à un moment donné, par exemple...
Ah, on ne va pas déflorer tout.
Il décide de destituer Janet, qui est la chef et un peu... Alors, c'est très pince sans rire, il y a des dialogues qui sont...
C'est
savoureux, c'est un film sympa, savoureux.
C'est des messes-passes, ils se rencontrent dans les couloirs. Est-ce que tu serais d'accord? Est-ce que tu ne penses pas qu'elle exagère? Elle est hors de coup.
Mais en même temps, non, il parle devant elle. Hein.
Oui, après.
Parce que c'est tout ouvert.
Après,
ils finissent toute leur conversation par « Je suis heureux qu'on ait eu cette conversation. »
Oh, je suis vraiment heureux, Henrik, qu'on ait eu cette conversation.
Merci. Et moi aussi.
Donc, il y a un côté très formel.
Je suis heureux qu'on ait eu cette conversation.
Je suis également très heureux, Henrik, qu'on ait eu cette conversation.
Non, mais allez le voir, il est sympa, ce film. Alors, contrairement à un autre film, par contre, ça s'est pas bien passé. C'est le dernier film de Quentin Dupieux, qui est extrêmement prolifique. Alors qu'il doit sortir un à deux films par an depuis qu'il s'est mis à faire des films. Moi, c'est la première fois que je vois un film de Quentin Dupieux. Celui-ci s'appelle Yannick. J'ai tenu 20 minutes.
Ah bon ?
Ouais, j'ai tenu 20 minutes, j'ai trouvé ça extrêmement énervant. C'est trois acteurs qui commencent à jouer une scène, une pièce de théâtre. Et il y a un des spectateurs dans la salle qui trouve ça complètement con. Qui se lève et qui commence à leur dire, il les arrête, à leur dire je suis pas content, je suis pas venu, je suis venu pour me remonter le moral, là vous êtes en train de me plomber, votre pièce elle est merdique. Et alors le film est très court, il durait à peine une heure dix.
Ah ben les films de Quentin Dupieux sont pas très longs, hein, tu sais.
J'aurais pu tenir le coup, mais je savais pas quand je suis rentré dans la salle. J'aurais pu tenir le coup jusqu'à 1h10, mais au bout de 20 minutes, ça m'a exaspéré.
Ah, t'étais loin de la fin quand même, oui.
Je pense que c'était pas un bon jour. J'étais pas dans mon assiette. Donc je ne peux pas raconter le film. Je ne peux pas. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai pas aimé les 20 premières minutes, donc je suis parti.
Moi, j'ai récemment vu le film Incroyable mais vrai de Quentin Dupieux. Et ben moi, j'ai aimé. C'était pas mal.
C'est celui avec Alain Chabat.
C'est ça, exactement.
Avec Le Secret.
Avec Le Secret, exactement.
Le Secret dans la cave, c'est ça?
Oui, c'est ça. Oui, tout à fait.
Est-ce qu'il y a vraiment un secret?
On nous le révèle au fur et à mesure du film, effectivement.
Mais il y en a un.
Il y en a un, oui, oui.
Est-ce qu'il est intéressant, ce secret?
Oui, il est très intéressant. Très, très intéressant. Ah, et la fin est très... Non, je pense que c'est un bon film. De l'absurde, bien sûr, mais c'est un très bon film.
Ah, moi, ça m'a exaspéré. Le jeu des acteurs m'a exaspéré. En fait, là, dans Yannick.
Yannick.
Et alors, je rentre et tout. Et puis, le soir, je mets un peu YouTube, je regarde des vidéos, ça me tient un peu compagnie. Et je tombe sur un des vidéastes, des youtubeurs qui fait de la critique ciné, qui parle de cinéma. Et le mec a adoré. J'ai dit, merde, j'ai loupé un truc ou quoi. Donc je suis resté un peu, bon, l'esprit entre deux chaises, enfin, je suis resté, voilà, comme ça, un peu en suspens, en me disant, merde, j'aurais peut-être dû rester. Est-ce que ce film était bien? Est-ce que j'aurais pas dû passer outre l'agacement que me...
Il faut rester jusqu'à la fin pour comprendre...
Mais toi, tu voulais rester, pourquoi t'es pas resté?
Ah, parce que t'étais sorti, je pense.
Bah, je t'ai dit de rester, c'était pas grave, écoute, en plus, il durait pas longtemps. Donc je t'attendais dans le café d'à côté. Donc, voilà, quoi. Ah, ok, donc... T'as aimé...
Moi, j'ai aimé, effectivement...
Ce que je dis, moi...
Incroyable mais vrai. Non, j'ai aimé, vraiment. Au départ, c'est un petit peu agaçant, mais il y a quand même des... Non, il y a vraiment... C'est un humour... C'est spécial.
Parce que là, par exemple, on est sur de la répétition.
Ah.
Yannick, quand ça commence...
Non, tout à fait au début, la première scène avec...
Non, pendant les 20 minutes où le mec qui commence à prendre la parole... Et à les faire chier jusqu'à ce qu'ils sortent le flingue. Il est dans la répétition, le mec. C'est la scène, elle dure. Elle en devient. Moi, j'ai trouvé ça pénible, quoi. Je me suis dit, putain, si c'est ça tout le film.
C'est-à-dire qu'il est prolifique, il peut pas forcément faire un bon film à chaque fois.
Ah ben, le youtubeur a trouvé ça génial. Génial. Bon, après, je vais te dire la vérité. J'ai arrêté aussi la vidéo du youtubeur. Je me suis dit, je veux pas écouter si j'ai loupé un truc et tout. Bon.
Raphaël Quenard, mais... qui joue le rôle de mec qui interrompt la représentation, c'est un acteur que j'avais déjà vu dans Le Chien de la Casse. Et en fait, j'avais été frappé par le rôle qu'il tenait, qui est également un rôle
très désagréable.
En excès, disons, en excès, il essaye de prendre le pouvoir sur les autres, et il les traite, il les maltraite, quoi, vraiment. Ça finit par être assez odieux, Et là,
c'est, là, c'est pareil.
Là, c'est encore pire, là, je crois. Alors, je ne sais pas si un jour il va jouer des rôles différents, mais là, dans ce type de rôle, moi, j'avoue que je suis sorti également quelques minutes après toi parce que je voulais pas en entendre plus sur le sujet, quoi. Le mec qui interrompt, etc. Donc, je suis passé à côté du film, d'accord. J'irai peut-être le revoir un jour où ça sera mieux.
Tu iras le revoir tout seul parce que moi je peux
c'est,
pas. Là,
c'est très rare que je sorte comme ça au milieu.
Mais moi c'est pareil, c'est très rare. Ça m'est arrivé très rarement de sortir.
Mais c'est vrai qu'on est un
séance.
Peu.
Ça m'est arrivé, mais c'est vraiment.
On est un peu dans la peau des gens qui sont sur scène et qui se disent mais qu'est-ce que c'est que cet emmerdeur qui nous interrompt Qu'est-ce que c'est que ce mec qui nous interrompt? Et après, quand il demande un portable dans la salle et qu'il montre ce qu'il y a sur le portable, le mot de passe qui.
Stop.
Bon. Et donc. Il joue dans l'excès. Bon, c'est peut-être pour ça que le réalisateur le prend, parce qu'il est capable de tenir le coup pour faire un truc pareil. Bon, voilà.
Alors sinon, dernière chose, avant quasiment presque le dernier ou avant-dernier morceau, aussi il y a un court-métrage d'animation d'une dizaine de minutes qu'on peut voir sur Vimeo et sur YouTube. De Joe Capa qui s'appelle Ghost Dog, les chiens fantômes, qui a été présenté au festival de Sundance en 2021, je crois, et qui est une bizarrerie totale. C'est un dessin animé, hein, c'est de l'animation, il n'y a quasiment pas de paroles, mais il y a une bande sonore assez bizarre, assez creepy, c'est bizarre, quoi. Franchement, j'aime beaucoup ce truc, je l'ai trouvé un peu déstabilisant à regarder. Avec une histoire de chien dans une maison, dans une grande maison vide. Et en bas, à la cave, il y a des sortes d'hôtels avec des choses qui font penser à des reliques satanistes. Et à l'étage, tu as des sortes de chiens fantômes. Enfin, c'est assez. Voilà.
Et dans le film d'avant, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sortaient aussi en avance comme ça?
Non, il n'y a que nous.
Il n'y a que nous. Ah oui, bon, moi, j'avoue que je serais bien resté. J'étais un peu exaspéré par ce que je voyais à l'écran, mais je serais bien resté jusqu'au bout pour comprendre la suite. Mais bon.
Je t'ai dit de rester.
Vous êtes fait rembourser le ticket, non?
Non.
Moi, je paye. J'ai une carte.
Non, pourtant, je.
Je peux le voir autant
que
je
veux. Et encore, ce n'est pas là où j'ai payé le plus cher, parce que. Là, 12,90, c'est un MK2. Oui. Et par contre, on dirait la planète Mars. Alors là, c'est 15 euros. Et à UGC.
14,90.
Mais en fait, 14,90.
Quand on aime, on ne compte pas, c'est ça?
14,90 à UGC Léal. Je trouve ça quand même. Là, ça devient du luxe. Là. 15 euros la place, ça devient du luxe. Là.
C'est vrai.
Et le lendemain, 13, quoi. Tu vois, alors. Donc là, 13 encore, là, tu te dis, bon, oui, ok, mais alors 4, 15, quoi. Et encore, c'est pas le plus cher, puisque t'as les Salimax ou Dolby machin qui sont beaucoup, beaucoup plus chers.
Au Beaugrenelle.
C'est la salle Dolby, mais qui doit faire IMAX ou je sais pas quoi, qui a quasiment 22 euros. Hein. Et puis t'as des formules luxe. Qui sont à 25, je crois, je sais plus où, mais enfin, avec des super fauteuils où tu peux bouffer, etc., devant l'écran, machin. Mais là, bon, voilà.
C'est quand même un peu un film médical, quoi.
C'est-à-dire ?
Un film médical, bah, il te travaille quand même les sens, hein, les.
Oh, bah, j'étais allé voir un truc à gros succès comme sur les Champs-Élysées, mais il y a très longtemps, il y a bien 30 ans, et en fait, le son, c'était sûrement un Dolby déjà ou quelque chose d'avoisinant. C'était la seule salle qu'on trouvait. Je ne sais pas si ça existe encore, mais le son, il partait de l'écran et il atterrissait derrière moi qui était au dernier rang.
Ça existe encore.
C'était un truc vraiment exceptionnel, quoi.
Non, non, mais ça existe encore, effectivement. Et quand il y a eu le Dolby stéréo, effectivement,
ouais.
Dans les premiers temps où on faisait de la stéréo, effectivement, il y avait des retours. Le son allait de d'avant en arrière, ouais, de droite à gauche. Et ça existe toujours dans les cinémas.
Sauf que c'est vrai que les bandes son des films
sont moins travaillées.
Sont pas toutes sophistiquées. Hein.
Voilà, exactement.
Elles sont pas toutes sophistiquées et toutes les salles permettent pas d'avoir un super rendu. Bon,
je me rappelle le titre, je ne vais pas le dire à l'écran. Je ne vais pas dire ici.
C'était quoi? Mais si, dis-le.
Non, mais je sais pas prononcer l'anglais. Je suis désolé, j'en ai jamais fait.
On va traduire.
C'était un film à grand spectacle, absolument stupide. Mais enfin bon, c'était amusant quand même.
Les dents de la mer.
True Lies.
True Lies.
Je connaissais votre réaction d'avance.
Avec Arnold Schwarzenegger et Jamie Lee Curtis. Allez, pause.
Non, mais c'est vrai qu'il y avait une grande. Avant que tu lances, peut-être. C'est vrai qu'il y avait une grande salle qui était.
C'est sur les Champs-Élysées.
Oui, mais qui donnait sur l'étoile. Pas sur les Champs-Élysées, mais qui donnait sur l'étoile, sur une des grandes avenues en haut, comment ça s'appelle. Il y avait une très très grande salle là où il y avait tous les spectacles du dimanche. Sur TF1, sur le.
Non, sur Antenne 2, tu veux dire.
Dimanche.
La salle Wagram.
Avec Jacques Martin. Oui,
le théâtre de l'Empire.
Théâtre de l'Empire, voilà. Alors, au théâtre de l'Empire, c'est un des premiers théâtres où il y a eu. Moi, j'étais encore jeune. Hein. On était venu voir ça avec nos amis qui étaient pas loin de Paris. Et c'était avec trois. Il y avait trois écrans bout de bout. Et qui faisaient une seule image.
Ah!
Voilà, donc il y avait presque.
Il y a eu plein de procédés au fil des années.
Voilà, il y avait ça qui était
plein
là.
De trucs.
Et nous, on est venu voir là, je sais plus, 3 heures en Russie, ou je sais plus ce qu'il y avait, un film comme ça, où on se croyait, on était vraiment à l'intérieur de l'écran, et on se croyait dans la calèche, quoi, et puis voilà, dans la neige, et puis tout ça. Et
mais il y avait, voilà. C'est une technique effectivement assez ancienne. Je ne sais plus comment elle s'appelait, mais en tout cas, c'est une technique assez ancienne, effectivement, où il y a certains films. Grand film hollywoodien, par exemple, qui se faisait en trois écrans, par exemple, trois images.
Oui, moi j'ai vu ça. Alors, les halles existaient encore, les anciennes halles, et elles étaient vidées. Et il y avait une sorte des activités culturelles en dessous. Et j'étais allé voir La Passion selon saint Matthieu.
Oui.
Et c'était également filmé sur trois écrans.
Voilà.
Et c'est. Je me demande, enfin, j'ai jamais revu ce film. Je sais pas du tout d'où ça sort. J'étais arrivé là par hasard.
Ça me dit rien, cette histoire de trois écrans. Comment? J'ai pas souvenir. Enfin, ça me dit. Mais j'ai pas souvenir. J'ai pas ça en tête.
Mm-hmm. Alors,
je peux pas vous aider là, techniquement.
Ouais, oui. Alors, et puis j'ai vu après, parce que ça devait être dans les années 60. Donc ces trois écrans là, il y avait à l'Empire, qui n'existe plus, hein, l'Empire c'était colossal, hein, bon. Et puis ensuite, moi quand j'ai habité en région parisienne, la Défense était loin d'être finie d'être construite, oui, voilà. Et donc il y a eu 1976, c'est quoi? C'est le 200e anniversaire de la création des États-Unis. Et il y avait un cinéma. Il faisait 360 degrés. Alors, au milieu, il n'y avait pas de pièce de salle. De toute façon, c'était sur des terrains immenses, désertiques. Hein. Il n'y avait pas de tour encore. Et il y avait une très grande tente, dans circulaire, comme le cinéma. L'écran, il faisait tout le tour, mais au milieu, on n'était pas assis, on était tous debout. Et puis, il y avait quand même, pour se situer quand même par rang un petit peu, il y avait des trucs qui faisaient 1 mètre, 1,50 mètre de hauteur en bois pour se tenir.
Des piquets.
Voilà, des piquets, oui. Alors, on se tenait comme ça. Et puis, effectivement, à un moment, ils projettent devant, tout autour. Il y avait un véhicule de pompiers. Voilà, un gros camion pour éteindre des incendies et tout ça. Mais alors, c'était filmé aux États-Unis et on voyait les mecs avec les casques et tout ça. C'est-à-dire qu'on était là, on tenait son piquet, nous, on regardait devant, on regardait un peu par l'épaule de celui qui était devant nous, et on voyait l'écran qui était un peu au bout, et sur l'écran, on voyait la nuque de celui du pompier qui était, donc avec son casque devant. Et quand on se retournait derrière, on voyait la tête de l'autre qui nous regardait. C'était fabuleux comme...
Mais
Il y avait de l'image tout autour. On était dans les rues de San Francisco, je crois, un truc comme ça, parce que ça descend. Hein, ça,
bien avant la géode, en fait.
Ah, bien avant la Géode. Voilà. Ah, oui, bien sûr. Ah oui, ah, oui, oui. Ah, ben, la Géode n'était pas... Oui, parce que moi, je suis allé dans les premiers trucs de la Géode. Oui. Ah, oui. Voilà. Et ça, c'était en 1976. J'ai des dates, hein, oui. Mmh. Ah, c'est super.
à quel moment, quand tu te lèves le matin, tu te dis, je vais faire un morceau comme ça?
Ouais.
À quel moment tu te dis, voilà.
Alors, il y a de la folie, il y a de la jouissance dedans, il y a...
Tu te dis, je vais faire ça, et tu vois tes potes musiciens du groupe, et tu leur dis, écoutez, j'ai le morceau là d'aujourd'hui. Voilà. Ben voilà, c'est de l'art, c'est de la création, de la créativité. C'est génial, et c'est quasiment le morceau de la fin. On est un peu en retard sur le planning qui avait été prévu. Steve. Serge. Dit Yves.
Ben on se dit au revoir.
Ok, merci. On dit au revoir. Oui, oui, au revoir. Oui. Allez.
Au revoir. Salut. À la semaine prochaine.
Portez-vous bien.
Et puis, on vous laisse avec Chourchotte dans une demi-heure. Donc, là, un dernier titre de la compilation, c'est Zim Zoom. Et ensuite, c'est Los Digis Pareja. Ciao. Ouais. Bonsoir. À bientôt.
Au revoir. Who's it on to the
that is bad. I'm positive. I'm glad I'm positive. Broken leg. The only difference is a broken leg exists. I'd rather be alone with a schizophrenic than a psychiatrist. Yeah. Loony alert, loony alert, loony alert. Alert loony on stage, alert loony on stage. When people fall off the edge, do we catch them or punish them? If the question is madness, what is your answer? Let the question go past us. Allow us some madness. Maimed because of past hurts, born of pain, sadness, innocent, madness. Pastures will heal us, we are the daisies, we are the maybes, away from the cure-alls where they abhor us. We are insurers, born for a purpose. The truest crying ever done was done by daisies denied the sun. The evil occasion flowered under the moon. And we the mad got understood, and not by those who take our blood, but only by the few that could. You only need only fears. You may even like us. Don't do your best. Do a little less. They'll push us from the drug firms. Don't say everything they know and learn. They'll push us from the drug firms. They say these make you well. They'll push us from the drug firms. It's legalized, is hell. Bottlewood. I lie abandoned on the floor. I couldn't take no more. I want to get me bottle back. I can't get off the floor. Just learn to love the floor, but edge towards the door. Mental health difficulties is what you get if you're honest with a psychiatrist.
Happy 2 weeks? You've been happy for 2 weeks? I'm afraid you've got clinical happiness. I have a fear of medication. My fear may become a consternation. We medicate the consternation. Just because you don't understand me, doesn't mean I don't make sense. Bipolar disorder. Left untreated, the patient can be capable of success. The happiest moments of her life, when the worst moments are over. A cigarette was all she had. The drugs themselves had made her mad. The cigarette was all she had. She smoked the cig, she drank the tea, and then returned to ward number 3. Psychiatrist, how long since you last worked? 10 years. Oh, that's quite recent then. It's okay to be sad. I'm positive. It's okay to be mad. I'm positive. It's a system that is bad. I'm positive. I'm glad I'm
Thank you. S-Team Records in the building. Sure Shot Radio Show.
S-Team Records, let's go to Sure Shot Radio.
Sure Shot's Radio Show.
Sure Shot's Radio. Get it. Sure Shot's Radio Show. Ha!
Sure Shot's Radio Show. That's what it is. Bang.
DJ C. Kill.
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 DJ 5.
DJ 5.
DJ 5.
DJ 5.
DJ 5.
DJ 5.
It's DJ Legal from the Snow Goons. You're listening to the Sure Shots Radio Show. Every Friday night at midnight, only the real hip-hop. You know, the S-Team Records team. DJ 5, C-Cal, and Numax. You know how we do, man. Peace.
Yo, yo, this is Sick Nature repping the Snow Goons. You're now checking out the Sure Shots Radio every first Friday at midnight. 10 hours of pure hip-hop live and direct with the DJs, DJ 5, Numax, and C-Kel. S-Team Records, salute. What up, this is Sick Nature, repping the Snow Goons. You're now checking out the Snow Goons special, brought to you by DJ 5, C-Kel, and Numax. Sure Shots Radio, real hip-hop in your face. Boom.
This is your boy, man. Y'all know what it is. Mike Supreme, the Beast, Rough Riders, Force Hill Collective, Shot Town, stand up, and you're not tuned in,